UMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Cette semaine, nous terminons notre belle série, notre belle semaine avec mon amie Audrey. On a passé une bonne semaine, mais il y a encore des choses vraiment à découvrir pendant cette émission. Alors restez avec nous. Et comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, nous sommes dans l'attente de notre nouveau décor. Et c'est pour ça qu'en attendant, je vous reçois chez moi pour faire des émissions. Et donc, restez à l'affût pour savoir quand le nouveau décor de Parole de femme va sortir. Donc aujourd'hui, Audrey, nous sommes encore ensemble pour notre dernière journée. Mais j'espère qu'on aura l'occasion, comme je l'ai dit aussi, de nous revoir, soit comme ça, soit en vrai. En vrai, ce serait beaucoup mieux. Mais écoute, c'est quand même mieux que rien. Surtout qu'on a quand même eu une belle semaine. Et merci d'avoir pris le temps de partager avec nous dans Parole de femme sur ce thème, sur cette série Courage, grâce et gloire. Cette série qui nous prépare à vivre les temps de la fin, à être des chrétiens forts, des chrétiens courageux. Vraiment, merci beaucoup Audrey. Je crois que c'est un message prophétique pour l'Église. C'est pas juste une discussion, c'est pas juste un partage d'idées. C'est vraiment un message prophétique pour l'Église dans les temps dans lesquels on est aujourd'hui. Et je suis heureuse que tu aies pu le partager. Moi, ça m'a beaucoup bénie en tout cas. Et donc voilà. Aujourd'hui, on termine après le courage, après la grâce, on termine avec la gloire. Parce que comme hier, tu l'as dit, nous voulons vivre, nous voulons voir la gloire de Dieu.
Amen, exactement. D'abord, je voudrais commencer en disant j'ai hâte de voir votre nouveau plateau.
Ah.
Vous faites toujours les choses bien en excellence. Et il va y avoir la gloire sur le plateau. Mais de toute façon, oui. Je suis contente qu'on finisse avec la gloire, Annabelle, parce que oui, c'est vrai, jusque-là, les gens sont peut-être, ça avait peut-être être un petit peu lourd en disant, waouh, la persécution, waouh, la grâce, oh, je dois endurer. Mais c'est vrai que ce n'est pas la fin par elle-même, c'est que simplement, c'est la voie à traverser pour arriver, c'est le pont à traverser pour arriver à la gloire de Dieu. Non pas que c'est ce que Dieu veut, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'est le fait, c'est que même Jésus a dit, le royaume de Dieu est forcé, mais c'est les violents qui s'en emparent. Et une forme de violence, c'est de refuser de céder à l'intimidation de l'esprit d'Antéchrist qui vient pour essayer que l'Église soit passive, silencieuse, sans rien faire, parce que c'est ça le but du diable, c'est de garder l'Église à côté, silencieuse, sans rien faire. Mais non, messieurs et mesdames, on va se relever, on va s'élever avec hardiesse, avec courage, avec grâce, parce que Dieu veut, il revient pour une Église qui est glorieuse. Il revient pour une Église qui marche dans la puissance de Dieu, qui marche non seulement en sainteté, mais dans la puissance. Et je suis persuadée qu'on a vu même que Pierre, il marchait dans les rues de Jérusalem et que son ombre guérissait les malades. Et ça n'est rien comparé à ce que vous et moi, nous allons vivre dans ces derniers temps. Mais bien sûr, on a vu que pour voir cette grâce et pour expérimenter, vivre cette grâce, il y a un prix à payer. Amen. Et le prix à payer, c'est de tenir bon, c'est de refuser de céder à cet esprit d'intimidation, à la peur de l'homme, et de refuser d'être passif et silencieux. Mais de même si on est persécuté, même si on est torturé, même si peu importe, on refuse de lâcher prise. Amen. Et on a choisi de marcher avec Jésus, de ressembler à Jésus et de même dire de ne pas céder au but de la persécution. Amen. Et c'est de ça que Jésus parlait. Vous savez, moi je vois dans Luc chapitre 9, même on voit ça dans Matthieu chapitre 17 ou 16 et dans je crois que c'est Marc chapitre 8, Jésus a parlé, il a dit à quoi ressemblerait un disciple. Et quand on parle du prix à payer, et dans Luc 9, 24 à 26, il dit car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Et que servirait-il à des hommes de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Voyez la gloire. Et dans celle du Père et des saints anges. On voit là que Jésus parlait à quoi ressemblait un disciple. Qu'un disciple ne cherche pas à sauver sa vie, à protéger sa vie. Il ne cherche pas à protéger. Vous voyez, moi je dis toujours, notre plus grand ennemi, ce n'est même pas le diable. Notre plus grand ennemi, c'est le grand moi, ou je, c'est le grand je. C'est ça qui... Et quand on est persécuté, c'est le grand moi qui tout d'un coup s'élève en disant « Oh, tu dois me protéger, tu dois protéger ta réputation, tu dois protéger ton confort, tu dois protéger, bref. » Et c'est ça que l'on doit sacrifier, c'est ça qui doit mourir, c'est le grand moi qui doit mourir. Et on doit dire « Peu importe, moi je veux la gloire. » Et vous voyez, quand Jésus est allé à la croix, j'aime bien que dans Hébreux 12, 2, il dit que afin de pouvoir aller à la croix et de pouvoir expérimenter ou vivre la gloire, vraiment la gloire, la résurrection et la gloire, Jésus, afin de pouvoir faire ça, il a fixé ses yeux pour la joie, la joie qui était devant lui. Et la joie, c'était tous les croyants qui allaient recevoir Jésus. La joie, c'était la résurrection, c'était la gloire. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qui va nous motiver à dire, à confronter la persécution. C'est ce qui va nous motiver. Ce qui va nous motiver de dire, ouais, je vais souffrir peut-être un petit bout de temps, mais ce n'est rien comparé à la gloire, à la puissance, à ce que je vais vivre en Jésus si je souffre un petit peu avec cette persécution, si je refuse de lâcher prise, si je tiens bon, je vais vivre la gloire, je vais vivre. Et tu sais, tu en parlais avant de commencer l'émission. Toi et moi, on parlait un petit peu des personnes comme Catherine Kuhlman. Renate Bankey, Maria Wudas-Hater, tous ceux qui ont connu vraiment un réveil et qui ont vu une puissance extrême et extraordinaire dans leur ministère, ils ont tous vécu un certain montant de persécution. Mais ils ont tous refusé d'abandonner, de lâcher prise, même s'ils étaient persécutés. Ils ont tenu bon. Et à cause de cela, ou je dirais grâce à cela, l'ennemi n'a pas pu les arrêter. Et c'est à ce moment-là, il y a eu comme quelque chose qui s'est fait dans l'esprit, parce que l'ennemi ne pouvait pas les convaincre de lâcher prise, d'abandonner, d'être passif, silencieux et de reculer, parce que l'ennemi ne pouvait pas les arrêter. Il y a quelque chose qui a dans l'esprit qui a cassé. Il y a quelque chose, c'est comme si ça, tout d'un coup, il y a quelque chose qui a explosé dans l'esprit et ils ont expérimenté une gloire et une puissance dont laquelle on entend parler même aujourd'hui. C'est magnifique.
On entend parler de cette puissance qu'ils ont expérimentée. On entend les miracles, on entend le réveil, mais c'est quand même important de se rappeler qu'ils ont payé un prix, qu'en fait, ça n'a pas été gratuit dans le sens où il y a eu des sacrifices à faire de leur part. Il y a eu un prix à payer et Catherine Kuhlman disait, vous ne pourrez jamais imaginer le prix que j'ai payé. Et c'est sûr, ça a été des sacrifices personnels, ça a été des sacrifices, oui, au niveau des réputations, comme tu disais, des titres, etc. Et c'est des choses, faut pas les oublier, faut pas se dire, je veux juste la gloire, je veux juste les miracles, je veux juste le réveil. Es-tu prêt à prendre aussi tout ce qui vient avec? Parce que lorsqu'on vit le réveil, on dérange le diable et on le dérange beaucoup parce que c'est des âmes qui sont sauvées en grand, grand nombre. Donc le diable, dans sa stratégie, veut faire peur, veut arrêter, veut intimider. intimider parce qu'il sait qu'il va être rudement mis à l'épreuve et que des âmes vont être sauvées. Et c'est certain que c'est dans tout son intérêt que de décourager. Et c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à vivre ce temps de persécution? Est-ce que je suis prêt à vivre ces temps de souffrance pour vivre la gloire de Dieu et garder nos regards fixés sur la récompense? Se dire, oui, peut-être que entre le moment où je vais le vivre ou même pendant que je vais le vivre, bah, le diable va vouloir m'attaquer, le diable va vouloir attaquer mon ministère. Mais qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux vivre une vie de chrétien tranquille, qui ne dérange pas et qui n'est pas dérangé? Ou est-ce que je veux vivre et voir la gloire de Dieu et être prêt, bah, aussi à devenir un ennemi numéro un pour le camp de, le camp de l'ennemi? Et ça, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est de considérer que ce sera, oui, un petit moment, mais il y a une récompense. Il y a vraiment une récompense. Parce que Dieu est juste.
Et c'est ça, en fin de compte, c'est exactement quand on est dans ce moment où on souffre, peu importe le genre de souffrance, peu importe ce qu'on est en train de vivre, c'est là, par la foi, où on doit garder la joie qui est devant nous. On doit se rappeler, oui, je suis en train de souffrir un petit moment, mais ce n'est rien comparé à la gloire que je vais vivre. Mmh. Ce n'est rien comparé à ce qu'il y a de l'autre côté de la persécution. Il y a une super grande... Et on doit se rappeler ces hommes et ces femmes qui ont vécu la gloire, mais parce que quand, au moment où ils souffraient, au moment où on les a persécutés, au moment où on les a traités de fous, on les a traités, où on a, comme Renate Banquet, on a détruit son chapiteau, l'autre, on les a calomniés sur les télés, sur les journaux. Tout ça, on dit, mais ce n'est rien comparé. On doit se rappeler, mais de l'autre côté de la souffrance, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a le réveil, il y a tout ce que, vous voyez, tout ce que Dieu a de l'autre côté. Et moi, j'aime dire, c'est que quand... On est dans ce moment de souffrance parce que on a tendance à vouloir se recroqueviller, à penser, comme je disais, au grand moi, au jeu. Amen. C'est là où on doit, quand on est rempli de l'esprit, j'en parlais l'émission d'avant, je disais, quand on est rempli du Saint-Esprit, parce qu'on a passé du temps dans la parole, à louer, à remercier le Seigneur, à prier en notre langue, tout d'un coup, notre réponse n'est pas, oh, essayer de se protéger, essayer de protéger notre réputation. Non, tout d'un coup, on voit la persécution au travers des yeux de Dieu, et on se dit, waouh, j'ai une opportunité à l'instant même de pouvoir aimer mon persécuteur. Que c'est ce que Jésus nous a dit. Dans Matthieu, dans chapitre 5, verset 44, Jésus, il nous a dit, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'être rempli de l'esprit, parce que la chair veut se recroqueviller, la chair veut se protéger, la chair veut éviter la souffrance. Mais quand on est rempli de l'esprit, tout d'un coup, notre réponse, c'est « Waouh, Dieu, je vais aimer mon persécuteur, comme Étienne l'a fait, comme Jésus l'a fait. » Et pourquoi est-ce que quand on aime notre persécuteur, oh, c'est tellement puissant, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que moi, je me suis toujours posé la question, mais Dieu, s'il y a quelqu'un qui te persécute, pourquoi ne pas empêcher ou juger le persécuteur, empêcher le persécuteur, tuer le persécuteur, enlever le persécuteur? Pourquoi? Parce que oui, Dieu nous aime, mais Dieu aime aussi le persécuteur. Et quand on est rempli de l'esprit, que tout d'un coup, de l'abondance de notre cœur, on dit, ouais, il me persécute, mais Dieu aime cette personne. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. S'ils connaissaient Dieu, ils n'agiraient pas de la manière. S'ils connaissaient Dieu, ils ne parleraient pas de cette manière. Et tout d'un coup, on voit cela, comme la Bible nous dit, comme ce moment de persécution. Si on répond par l'amour, on peut utiliser ce moment-là comme une opportunité pour témoigner de l'amour de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire par témoigner? S'en servir à ce moment-là, parce qu'on marche dans l'amour, on utilise ce moment avec cette personne qui nous persécute comme un témoignage.
Et tu sais, on a parlé de Paul et Silas dans la semaine, et quand ils ont vécu ce tremblement de terre, quand Dieu a donné un coup de pied, comme tu l'as dit, Audrey, après avoir
été... Il a tapé du pied, ouais, comme...
pour danser.
Pour danser, voilà.
Ils ont été roués de coups, ils ont été enfermés en prison, et l'homme qui les a enfermés, l'homme qui était là pour les surveiller, ce geôlier se réveille, il voit les portes sont ouvertes, les chaînes sont déliées, et il est prêt à se tuer. Et là, Paul dit non, ne te fais pas de mal. Et finalement, on se dit, mais Paul aurait pu tellement lui en vouloir à cet homme, lui dire, tu vois, tu fais partie des méchants. Mais en fait, à ce moment-là, le geôlier a été touché, il a vécu quelque chose, et finalement, il se retrouve, celui qui les gardait en prison, il se retrouve à les inviter chez lui, à prendre soin d'eux, à laver leurs plaies, et à ce que toute sa famille soit sauvée. Et en fait, c'est vraiment ça le ce qu'il y a derrière la persécution, et ce qu'il y a aussi derrière le persécuteur. Et c'est ce que Paul lui-même avait vécu. Il était sur le chemin de Damas pour aller persécuter. Comme tu le disais, Dieu aime le persécuteur. Il veut toucher son cœur. Il prend pas plaisir à voir le méchant mourir. Il voit, il prend plaisir à ce que le méchant change de voie, se repente et vienne à Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu fait, et c'est ce que Dieu a fait pour ce geôlier, parce que Paul n'a pas choisi la vengeance, mais Paul a saisi toute occasion, favorable ou non, pour annoncer l'évangile.
Exactement. Ouais, c'est... En fin de compte, c'est ce que Jésus, quand il avait parlé aux disciples, il les avait avertis dans Luc 21, dans le verset 12 et 13. Il a dit, ils mettront les mains sur vous, ils vous persécuteront, ils vous livreront aux synagogues, vous mettront en prison, vous amèneront devant les rois, devant les gouverneurs à cause de mon nom. Mais il dit, mais cela vous sera une occasion de témoignage, bien sûr, si on choisit de marcher par l'amour. Et c'est comme tu disais, Annabelle, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Paul. Parce que tu te rappelles quand, tout d'un coup, Étienne, quand ils ont lapidé Étienne, la Bible dit que Paul, qui était un pharisien des pharisiens, qui a grandi sous Gamaliel, il était là présent et il a vu quand Étienne a été lapidé. C'est lui qui tenait les manteaux des persécuteurs. Et c'est lui qui a même donné son approbation et qui regardait. Et qu'est-ce que c'est qu'il a vu ? Parce qu'il a vu Étienne qui, lui, a été lapidé, persécuté. Il a vu tout d'un coup Étienne qui resplendissait et qui est tout d'un coup et qui a dit « Oh Seigneur, pardonne-les, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. » Et à ce moment-là, il y a eu la gloire de Dieu sur Étienne et puis hop, il s'est endormi. Et Paul, c'est ce qu'il a vu. Il a vu, au lieu de voir un homme qui est mort, aigri, dans la colère ou dans la peur, il a vu un homme qui, même s'il était persécuté et lapidé, il a répondu avec amour, en bénissant les persécuteurs, en priant pour les persécuteurs. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? C'est devenu un aiguillon dans son cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est tout d'un coup cette image d'amour personnifié, ça l'a poursuivi partout. À chaque fois que Paul, il allait ici et là, à chaque fois qu'il était au lit en s'endormant, qu'est-ce qu'il voyait ? Il voyait cette image d'un homme qui était persécuté, lapidé, et qui a choisi d'aimer son persécuteur. Cette image, quand tout était silencieux, amen, quand tous les bruits étaient arrêtés et que tout d'un coup, il était allongé, il voyait, il a eu cette image et ça a servi comme un aiguillon. C'est pour ça que quand Paul était sur la route de Damas et que tout d'un coup, il a vu la lumière, il a entendu Dieu qui a dit « Paul, pourquoi tu me persécutes ?» Et qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Il dit « C'est difficile d'aller contre cet aiguillon. » De quel aiguillon parlait-il ? De cet aiguillon, de ce témoignage d'amour que Paul a vu au travers d'Étienne. C'est devenu un aiguillon qui continuellement, qui pointillait, qui percutait son cœur. Vous voyez, quelque chose dans le doigt, tu vois.
Une écharde.
Une écharde, voilà. Quand t'as une écharde, oh, ça te fait du mal, t'arrives pas à t'en débarrasser. Eh ben, cette image d'un homme persécuté qui a choisi de marcher dans l'amour, c'est cette image qui a fait en sorte qu'il était continuellement harassé par cette image. Et c'est cette image qui a fait en sorte qu'un jour, Paul, il a dit, j'arrête, j'en peux plus. Je comprends que Dieu est amour. Et c'est là, c'est comme ça que Paul a donné sa vie au Seigneur. C'est devenu un témoignage. Ah ouais, c'est devenu un témoignage pour Paul qui a vu que Paul a fléchi le genou et qu'il a abandonné parce qu'il a compris que ce Dieu qui avait glorifié Étienne, c'est Dieu qui avait permis à Étienne de marcher dans l'amour même quand il était persécuté. C'est ce Dieu qu'il a rencontré à ce moment-là sur la route de Damas.
Ouais, bah écoute, j'avais jamais vu ça comme ça, Audrey. Vraiment, c'est sûr que ça me. Du coup, je suis partie dans mes pensées. Je reviens encore une fois. J'aimerais bien entamer une conversation avec toi, mais on ne peut pas tout de suite. Mais ouais, waouh. Attends, je remets mes idées en place. Donc on est
dans les récompenses. Paul, à chaque fois que Paul était persécuté, et cet homme a été persécuté, je sais pas, quand même plus que tout le monde. Tu sais, dans Philippiens 1:12, ouais. Paul a dit, il dit, je veux parce qu'il encourt Amine. Le mec, il est en prison, persécuté, et c'est lui qui encourage les disciples. C'est lui qui lui dit, qui leur dit, hey, ne lâchez pas prise, ne perdez pas, n'abandonnez pas la foi, ne vous faites pas de soucis pour moi. Réjouissez-vous. Mais dans Philippiens, il dit, réjouissez-vous encore, je dis réjouissez-vous. Et c'est ce qu'il leur dit. Il dit, pourquoi réjouissez-vous? Il dit, dans le verset 12, je veux que vous sachiez, mes frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à l'avancement de l'évangile. Parce que Paul savait qu'à chaque fois qu'il était persécuté, comme tu l'as dit, toi, dans Actes 16, 25, amen, ce geôlier qui, lui, l'a persécuté, l'a jeté dans la prison, lui a mis des chaînes autour de ses pieds et de ses poignets, amen, et de ses chevilles. Paul, il dit, mais je sais que tout cela va servir à l'avancement de l'évangile. Donc, Paul ne se faisait pas de soucis. Il marchait dans la joie. Il louait le Seigneur. Il marchait dans l'amour. Il n'était jamais déstabilisé parce qu'il savait que cette persécution, s'il choisissait de marcher dans l'amour et de voir la joie, la gloire qui était de l'autre côté de la persécution, il savait que ça servirait pour la gloire de Dieu. Il savait que ça ne pourrait jamais l'empêcher. Ça ne pourrait jamais l'arrêter. Il savait que d'une manière ou d'une autre, la puissance de Dieu, il y aurait une grâce disponible, amen, et que ça servirait non seulement pour l'avancement de l'évangile, mais que la puissance et la gloire qu'il avait même jusque-là expérimentée allait grandir de plus en plus, de foi en foi, de gloire en gloire. Et c'est de ça que Paul parlait. Il parlait qu'on était destiné à aller de foi en foi et de gloire en gloire. Parce que le plus on affronte la persécution, le plus on choisit d'aller de l'avant sans être intimidé, le plus on continue, le plus cette gloire s'agrandit, la puissance agrandit de gloire en gloire, de foi en foi, de puissance en puissance. Donc c'est pour ça que quand on est confronté à la persécution, on ne lâche pas prise, on ne rentre pas dans ce schéma de martyr, dans ce schéma de pourquoi moi. Non, on se dit, waouh, je suis sur le point de connaître encore une plus grande foi, une plus grande gloire, une plus grande puissance. Et ça va servir pour l'avancement de l'évangile. Et ça va tourner en témoignage pour les personnes qui me persécutent. Waouh! Moi, ça me motive, non?
Amen. Audrey, j'aimerais qu'on prie pour les gens pour terminer cette série. Mais avant de prier, je vous laisse juste savoir si toi, tu voulais encore ajouter autre chose. Et puis après, on pourra prier pour les personnes.
Ben, je veux vraiment, la seule chose que je veux rajouter, c'est que moi dans le ministère, en tant que femme dans le ministère et qui prêche que la guérison est toujours la volonté de Dieu, je prêche le message de la grâce, non par les œuvres mais par la grâce. Je suis des fois un petit peu, j'ai une réputation d'être un petit peu
radicale,
de la hardiesse et radicale et tout ça. Et c'est vrai que j'ai vécu un petit peu, rien bien sûr comparé à Paul et aux apôtres, encore rien connu, amen. Mais je sais qu'à chaque fois, des fois que je je reçois des emails de haine, on m'a traité de tous les noms, on m'a des fois mis des choses, mais tu te dis, mais comment est-ce que les gens peuvent être si méchants? Mais tu vois, je le prends et comme Paul, je le tourne pour mon avantage. Mmh. Au lieu de le regarder en disant, oh, mais pourquoi ils sont si méchants avec moi? Pourquoi ils font ces... Tout d'un coup, je le vois avec une perspective, comme les disciples, où je me dis, waouh, merci Seigneur, que je suis persécutée, ça veut dire, je suis en train de prêcher le bon message, ça veut dire que je commence à ressembler à Jésus, ça veut dire que je vais expérimenter un petit peu plus de foi, un peu plus de grâce et de puissance. Amen. Vous avez l'opportunité, quand vous êtes persécutée, peu importe dans quelle forme, comme j'ai dit, il y a plusieurs degrés, eh ben, tournez-le pour votre avantage, pour l'avancement de l'évangile, amen, et amen. Pour un témoignage pour cette personne. Choisissez de marcher en amour et de prier pour la personne et d'aimer la personne qui vous persécute, vraiment. Vous allez connaître même une satisfaction, une joie à l'intérieur, au lieu de vous voir comme un martyr et de vous recroqueviller sur votre nombril. Regardez-le comme un atout, comme une joie, comme Paul le faisait.
Je te laisse prier, Audrey, pour terminer toute cette semaine.
Oui, alléluia. Oh, alléluia. Il y aurait tellement plus à dire, mais je veux vraiment prier pour vous tous et vous toutes. Vous avez choisi de regarder ces émissions jusqu'à la fin. Alors, félicitations. Ça montre même que vous êtes des personnes dont le cœur est pour Jésus. Une personne, vous êtes prête à faire ce qui est nécessaire, à aller de l'avant. Et je prie au nom de Jésus que peu importe la persécution qu'ils peuvent vivre ou ils vont vivre, je prie, Seigneur, que leur cœur soit édifié, leur cœur soit fortifié par la grâce de Dieu. Et je prie, Seigneur, que l'Esprit va les remplir, ils vont avoir expérimenter une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit, et qu'ils vont voir et connaître une joie, l'amour de Dieu pour le persécuteur. Et sois, Saint-Esprit, tu ouvres leurs yeux, tu touches leur cœur, qu'ils puissent vivre une autre dimension, même dans l'amour de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la gloire de Dieu. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qu'ils aient un cœur qui soit prêt à vivre ces choses, car on est dans la fin des temps et Dieu a besoin de vous toutes, de vous tous, messieurs et mesdames, pour faire partie de cette armée de Gideon, cette armée qui n'a pas peur, cette armée qui marche dans l'esprit, cette armée qui se relève, cette armée qui est une armée. Oh, alléluia, qui est rempli du Saint-Esprit et qui vit la gloire de Dieu, le feu de Dieu et qui est lumière pour le monde qui est autour d'eux. C'est une armée qui est puissante, qui est forte, qui est inébranlable. Une armée, c'est un géant. Et je déclare sur votre vie, vous êtes des géants, vous faites partie de l'armée de Gideon et Dieu vous aime et Dieu est fier de vous, messieurs et mesdames. Soyez béni.
Amen. Merci beaucoup, Audrey. Merci pour toute cette série. Et je vous encourage, vous qui avez suivi, à partager les émissions, à être les gardiens de vos frères et sœurs en leur disant, voilà dans quel temps nous sommes et on a besoin d'être enseignés, on a besoin d'être avertis, on a besoin d'être équipés parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors nous voulons être préparés pour voir la gloire de Dieu et ne pas abandonner en cours de chemin. Encore une fois, merci beaucoup Audrey pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous dans Paroles de Femmes. Et je te dis à très bientôt. Et je vous dis aussi à vous tous à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.